Vous le savez, depuis vendredi, la guerre entre Israël et Hamas a pris une nouvelle ampleur, une nouvelle tournure, raison pour laquelle nous prenons l'antenne ce matin avec Lise Benkemoun en direct de Tel Aviv pour une édition spéciale. Il est 9h.
Retrouvez-nous sur radiojudaïka.be.
9h, le journal, on retrouve Lise Benkemoun. Bonjour Lise.
Bonjour à tous. Depuis vendredi soir, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza. Elle intervient avec des forces blindées, des unités d'ingénierie, des drones, des hélicoptères de combat et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. Bienvenue dans cette édition spéciale consacrée à la guerre en Israël.
Les avions de combat de l'armée israélienne ont attaqué plus de 450 cibles militaires du Hamas dans la bande de Gaza au cours des dernières 24 heures. C'est ce qu'a annoncé ce matin l'unité du porte-parole de l'armée israélienne, Lise.
Oui, parmi les cibles attaquées se trouvaient des quartiers généraux militaires, des postes d'observation et des positions de tir anti-char du Hamas. Des équipes de soldats combinés ont attaqué des escadrons terroristes qui tentaient de s'en prendre aux soldats. Dans la nuit de samedi à dimanche, un officier de Tsahal a été grièvement blessé par un engin explosif improvisé dans le nord de Gaza. En outre, un autre soldat de Tsahal a été modérément blessé lors d'une rencontre avec des terroristes dans le nord. L'officier et le soldat ont été évacués pour recevoir un traitement médical à l'hôpital en Israël. Hier soir, le porte-parole international de l'armée, Daniel Hagari, a confirmé cette incursion terrestre et déclaré que les forces armées avaient surpris des commandos terroristes qui tentaient de lancer des missiles anti-chars et les avaient attaqués. Ils ont également découvert et attaqué une maison piégée. Des combattants, des unités blindées ont guidé les hélicoptères de combat qui ont pu bombarder également un point de rencontre des terroristes du Hamas dans un bâtiment.
Daniel Hagari, qui vendredi soir avant l'incursion de Tsahal dans Gaza, avait également pris la parole et apporté les preuves de ce que l'on sait en Israël depuis longtemps, à savoir que le QG du Hamas à Gaza se trouve sous l'hôpital Shifa. On écoute un extrait de son allocution.
Good evening.
Bonsoir. Je vais vous révéler des renseignements prouvant que le Hamas utilise les hôpitaux pour ses infrastructures terroristes. Le Hamas transforme les hôpitaux de Gaza en centres de commandement pour ses opérations, en cachettes pour ses terroristes et ses commandants. Et je peux même vous confirmer que contrairement à ce qu'ils disent, selon nos renseignements, ce que nous avons partagé avec les services du monde occidental, il y a de l'essence dans les hôpitaux à Gaza. Je répète, il y a de l'essence à Gaza et le Hamas l'utilise pour ses projets terroristes. Je voudrais commencer par l'hôpital Shifa, qui se trouve à Gaza City et qui est le plus grand hôpital de la ville. Le Hamas utilise cet hôpital, comme les autres, comme bouclier pour protéger ses hommes sous terre. Vous savez qu'il existe un métro souterrain, des kilomètres de tunnels à Gaza. Et il se cache à l'intérieur.
UNRWA places, hospitals, schools, etc., etc. This is a philosophy of Hamas. And Shifa is.
Vous comprenez que tous ces tunnels et toutes ces infrastructures souterraines, y compris en dessous de l'hôpital de Shifa, fait partie de la stratégie du Hamas de prendre la population de Gaza comme bouclier humain. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le ministre Benny Gantz ont tenu ce samedi soir une conférence de presse à la Kiria de Tel Aviv, Lise.
Oui, Benjamin Netanyahou, qui a logiquement pris la parole en premier, a confirmé lui aussi l'incursion terrestre et rappelé ses buts. Il a souligné que la décision d'entrer dans Gaza avait été adoptée à l'unanimité, tant par le cabinet de guerre que par le cabinet de sécurité, en précisant qu'elle avait été prise après mûre réflexion. Il a ajouté que les combattants de Tsahal savaient que tout le peuple d'Israël les soutenait. « Nous ne sommes qu'au début du chemin, la guerre sera dure et longue », l'a déclaré le Premier ministre, mais il a insisté, nous y sommes préparés. Il s'agit de notre deuxième guerre d'indépendance, a-t-il dit, avant d'évoquer longuement la force et le courage des soldats et la cruauté de l'ennemi. Il a souligné que les forces israéliennes étaient prêtes à éliminer cette force du mal pour le bien de l'humanité. On écoute un long extrait de son discours.
Citoyens d'Israël, la nuit dernière, des forces terrestres supplémentaires sont entrées dans Gaza, marquant le début de la deuxième phase de la guerre. L'objectif est de détruire les capacités militaires et politiques du Hamas et de ramener nos concitoyens kidnappés. La Torah nous dit de nous souvenir d'Amalek. Nous nous souvenons et nous combattons. Nos soldats et nos combattants qui sont présents à Gaza, autour de Gaza et dans les autres régions du pays, rejoignent la lignée des héros d'Israël qui existent depuis plus de 3000 ans. De Josué jusqu'au Maccabim et Bar Korba, et jusqu'aux héros de 1948 et de la guerre des six jours, de Yom Kippour et des autres guerres d'Israël. Nous avons toujours dit « plus jamais ça ». Plus jamais ça, c'est maintenant. J'ai le cœur brisé en rencontrant une fois de plus aujourd'hui les familles des personnes enlevées. Nous déploierons tous nos efforts pour les rendre à leurs familles. Leur enlèvement est un crime contre l'humanité. Le cynisme de nos ennemis n'a pas de limite. Ils utilisent leur propre population comme bouclier humain. Ils utilisent les hôpitaux comme cachette pour leurs terroristes et comme station d'essence pour mener leur guerre. Beaucoup de gens dans le monde comprennent maintenant ce qu'Israël disait toutes ces années. Israël ne mène pas seulement sa propre guerre, mais une guerre pour toute l'humanité. Une guerre de l'humanité contre la barbarie. Nos alliés partout et même nos partenaires dans le monde arabe comprennent que si Israël ne gagne pas, ils seront les suivants. C'est notre mission, notre but dans la vie. Ensemble, nous vaincrons.
Benjamin Netanyahou qui a terminé en disant qu'Israël continuait de lancer son appel à la population du nord de la bande de Gaza pour leur dire de s'en aller et de se rendre dans une région plus sûre dans le sud de l'enclave palestinienne.
Ensuite, et toujours lors de cette conférence de presse qui se tenait ce samedi soir à la Kiria, le QG de la Défense à Tel Aviv, le ministre de la Défense Yoav Gallant a également pris la parole après le Premier ministre.
Il a tout d'abord affirmé qu'il accordait toute sa confiance au chef d'état-major de Tsahal, aux officiers, aux soldats, au chef du Shin Bet et au chef du Mossad, et indiquait lui aussi que ce ne sera pas une guerre courte. On écoute un extrait du discours de Yoav Gallant.
Citoyens d'Israël, nos soldats combattent actuellement dans les airs, en mer et sur la terre, en dehors de la bande de Gaza et à l'intérieur de la bande de Gaza. Mais d'abord, je pense à toutes ces familles endeuillées ces dernières semaines, celles qui ont perdu un être cher au combat ou tué par nos ennemis, celles des otages. Il n'y a pas une minute où je les oublie. Ils sont dans mon cœur, dans mes pensées et dans mes décisions. Il s'agit d'une mission de la plus haute importance et nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons passé un cap. Nous avons frappé le Hamas comme jamais auparavant. La terre a tremblé et ce n'est qu'un début. Les forces de Tsahal frappent en ce moment même les points stratégiques du Hamas, que ce soit sur la terre ou en dessous de la terre. Je veux que les familles des otages sachent que nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour ramener les personnes qui ont été enlevées.
Elle est en train de se faire.
Nous affrontons une situation que nous n'avons jamais connue auparavant. Ce n'est pas un objectif secondaire dans cette guerre, c'est un objectif premier de la plus haute importance et nous nous comportons comme tel. Et enfin, après Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant, c'était au tour du ministre Benny Gantz de parler, Lise.
Absolument. Benny Gantz, qui est donc ministre sans portefeuille et qui était pour la première fois dans une conférence de presse commune avec Benjamin Netanyahu et Yoav Gallant. Il a rappelé qu'Israël est face à une organisation inhumaine, le Hamas, qui utilise des bébés et des femmes comme boucliers humains pour se sauver, qui mène une campagne psychologique, qui ment au monde, qui abuse des familles et qui essaye de déchirer la société israélienne. Mais il l'a assuré, ils échoueront tôt ou tard. Nous ferons en sorte que tout le monde en paye le prix. Les meurtriers et les kidnappeurs d'enfants méritent la mort. On écoute un extrait du discours de Benny Gantz.
La société israélienne a subi l'une des tragédies les plus grandes de son histoire. C'est à la suite de cela que nous combattons ensemble. Nous menons cette guerre avec détermination et responsabilité afin que la situation dans le sud change de façon radicale et fasse en sorte que plus jamais ça soit une réalité. Nous intervenons sur tous les fronts afin que nos ennemis comprennent le message. En même temps, nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir pour rapatrier tous les captifs et les personnes disparues qui se trouvent à Gaza. Et j'insiste sur le fait que nous déployons tous nos efforts. C'est notre devoir moral en tant qu'Israéliens, en tant que Juifs, en tant qu'État, en tant que dirigeant. L'opération terrestre, ainsi que d'autres actions, peut favoriser le retour des otages. Nous tous, le Premier ministre, le ministre de la Défense, le cabinet de guerre, le cabinet élargi et tout le commandement, nous sommes conscients de la gravité de la situation et de l'énorme responsabilité qui repose sur nos épaules. Nous ressentons également la douleur et les attentes des citoyens d'Israël.
Benny Gantz, qui ce matin, on va en rediscuter avec nos invités, est tout de même l'objet d'une polémique après un tweet de critique que Benjamin Netanyahu aurait fait cette nuit et qui a été enlevé depuis. Et pour terminer ce journal, sachez que tous les réseaux internet avaient été coupés à Gaza et qu'entre-temps, ils auraient été rétabli. Et enfin, l'US Navy révèle officiellement des photos du porte-avions Dwight Eisenhower traversant le détroit de Gibraltar et entrant dans la mer Méditerranée en route vers Israël.
Hello.
Voilà, c'était donc le premier journal que nous pouvions vous faire en ce dimanche 29 octobre. J'ai presque envie. Allô, allô, bonjour. Meyer, bonjour.
Oui, oui, Lise, oui.
Bonjour.
Bonjour. On est en direct avec Meir Dahan, colonel de réserve de Tsahal, qui est sur le terrain. Meir, bonjour. On a bien entendu tous les discours d'hier de Benjamin Netanyahu, de Yoav Gallant, de Benny Gantz. Tout le monde dit que ça va être une guerre longue. C'est combien une guerre longue? C'est des mois? C'est des années? À quoi on s'attend?
Je crois qu'eux-mêmes ne savent pas vous répondre à cette question et personne n'est capable de répondre à cette question. Longue, ça veut dire de la façon dont ils le traitent et on le voit sur le terrain. Il y a un avancement doucement, doucement, avec beaucoup de précautions parce qu'on fait grande attention à nos soldats officiers et grande attention aux civils qui sont sur place, afin d'éviter de faire trop de dégâts. Et en même temps, approcher l'organisation monstre de Hamas et de le détruire en fin de compte.
Bien sûr. Alors, dans tous ces discours de la conférence de presse d'hier soir, on a compris que c'était une guerre peut-être encore plus difficile que la guerre des six jours, mais hier, c'est ça que vous ressentez?
Ça n'a rien à voir aujourd'hui. Il s'agit d'une guerre de guérilla. C'est pas... Il s'agit pas de deux armées qui s'affrontent, qui s'accrochent. Il s'agit d'une guérilla, c'est maison par maison, c'est trou par trou, tunnel par tunnel, rue par rue, angle de rue, maison par maison. Mmh. C'est ça la guerre. On n'a pas à faire, vous savez, un monstre, un nazi de Hamas, devient en deux secondes un civil innocent du coin.
Ouais.
Il suffit qu'il jette son arme et il devient du coup un civil qui habite dans la maison et qui tremble de peur. D'ailleurs, dans les deux cas, il tremble de peur. Mais vous savez, c'est très, très, très difficile d'identifier. Alors, c'est obligatoirement, vous savez, on n'est pas des sauvages, on n'est pas comme eux.
Ouais.
Nous, prendre un char qui tire en direct dans des maisons, c'est le plus simple. Mais c'est pas ce qu'on fait. Donc, on essaie d'adopter une certaine stratégie. Entre autres, n'oublions pas qu'on a affaire à une organisation qui s'abrite au-dessous des institutions officielles, comme des hôpitaux, des écoles, de maisons d'aide, etc. Et pour approcher là-bas, alors que vous savez que dans un hôpital, vous avez 3, 4, 5 000 personnes qui s'abritent d'ailleurs. La plupart, ils s'abritent, ce n'est pas des malades. Mais bon, considérons que c'est des malades. On ne peut pas venir et s'éclater comme on veut. C'est doucement. Il faut aller doucement.
Ouais.
Parce qu'en définitive, on veut ce qu'il y a au-dessous, pas ce qu'il y a au-dessous.
Ouais. Alors, l'armée israélienne avait coupé les réseaux de télécommunications et d'Internet en démarrant son opération terrestre. Et là, visiblement, ils sont progressivement de retour. C'est important, ça, Meir, ou ça ne change rien?
Ben ça, je vivrais mieux avec non-communication dans le coin. Mais bon, on fera avec. Et d'ailleurs, on peut le couper quand on veut, définitivement. Mais bon, c'est un détail de plus. C'est pas l'essentiel.
L'essentiel,
c'est finalement l'accrochage de face à face qui se passe d'ailleurs au fur et à mesure. Et grâce à Dieu, nous avons des soldats, des braves soldats et des gens très courageux et très motivés.
On dit de temps en temps, hein, Meir, que toute cette incursion qu'on fait très prudemment consiste juste à gagner quelques kilomètres pour qu'après, quand ça sera fini, en fait, on puisse être à 10 km d'eux au lieu d'être à 3 km.
Mais vous allez déjà en direct à la fin de quelque chose qui n'est même pas à ses débuts. Alors, vous savez, ce genre de déclaration, c'est des présomptions, c'est des pensées, mais bon, il y a une stratégie derrière. Et n'oublions pas les déclarations définitives et claires et fermes du chef d'état-major, du ministre de la Défense et tout le monde, du Premier ministre. Il s'agit d'écraser et éliminer l'organisation qui s'appelle Hamas. Ce nazi doivent être éliminés et plus jamais revenir au pouvoir sur la bande de Gaza. Après, on verra pour le reste.
Oui, bien sûr.
Que ça soit 5 km, 6 km ou 10 km. Il n'y aurait pas eu ces civils qui, là-bas, il fallait raser tout cet endroit et rendre ça un réservoir naturel. Mais bon, malheureusement, ce n'est pas le cas. Il faut vivre avec et puis on va trouver la solution plus tard. Pour l'instant, on a un but, c'est d'éliminer cette organisation nazie. Vous savez, j'ai rencontré des parachutistes il y a quelques jours. J'ai discuté avec eux, très motivés, des jeunes très, très motivés. J'ai posé la question, vous allez où? Ils m'ont répondu, on va à Auschwitz pour tuer des nazis. Réfléchissez à ces deux mots. On va à Auschwitz pour tuer des nazis.
Mmh.
Alors voilà. Je crois que tout est conclu dans cette...
C'est vrai. Page. Bien sûr qu'on a tous eu l'impression que tout ce qu'on a vu, les massacres, l'école calcinée, les bébés...
C'est-à-dire la comparaison est qu'aujourd'hui, on a une armée, on a un pays, on a un peuple qui est capable de porter des uniformes et se défendre. Plus jamais, il y aura un Auschwitz qui n'aura personne pour aller là-bas pour tirer les nazis. Aujourd'hui,
ouais,
on a ceux qui vont aller à Auschwitz pour tuer les nazis.
Alors, en tout cas, dans les discours d'hier, On a quand même retenu, Meir, et ce sera ma dernière question, que les otages étaient quand même aussi beaucoup au centre de ça et que peut-être qu'au contraire de ce qu'on pourrait penser, l'opération terrestre et la pression qui est mise sur le Hamas en ce moment peut permettre de les faire libérer.
En tous les cas, je l'ai toujours dit, les concessions au départ sont inutiles et ne sont pas bonnes. Techniquement, ils ne sont pas bons. Stratégiquement, ils ne sont pas bons. Le Hamas comprend de force. Le Hamas, il faut le mettre sous pression. C'est que là qu'on pourra peut-être négocier quelque chose. OK ? Mais pour l'instant, je vous rappelle, Lise, je vous l'ai dit au premier jour, oui. On doit gérer cette guerre comme s'il n'y a pas d'otages et gérer la question d'otages comme s'il n'y a pas de guerre. Et on verra comment on fait joindre les deux. Il est clair que plus ils seront sous pression, plus ils seront capables de recevoir des messages un peu plus précis concernant les otages.
En tout cas, ils ont déjà dit…
Il ne faut pas croire que pour nous, les otages, ce n'est pas important. Je vous rappelle que les concessions qu'Israël a faites depuis son existence, durant toutes les années, par rapport à des soldats ou des civils prisonniers quelque part, même quand ils sont morts. Ce n'est pas à nous qu'il faut apprendre le moral, surtout pas après le 7 octobre.
Bien sûr. Non, mais c'est vrai que là, on sentait bien dans les prises de parole d'hier soir que c'était deux objectifs vraiment quasiment à part égale.
À part égale, je ne dirais pas. Je dirais que les prisonniers sont en première place. Mais il y a un préparatif à faire afin de créer les meilleures conditions dans lesquelles on pourra les avoir.
Bon. Merci beaucoup, Meir Dahan, d'avoir été avec nous ce matin alors que vous êtes sur le terrain, colonel de réserve de Tsahal. Merci à vous, bon courage à tous nos soldats.
Merci, merci, au revoir.
Au revoir.
Judaïka. Merci à Meir Dahan d'avoir pris de son temps pour nous donner ses éclairages sur la situation qui a évolué, je vous le rappelle, depuis vendredi soir. Tsahal a changé sa stratégie et est rentré dans Gaza avec une prise de parole hier soir conjointe entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, Yoav Gallant, ministre de la Défense, et Benny Gantz, ministre sans portefeuille et chef par ailleurs de l'opposition au gouvernement, qui est donc aujourd'hui un gouvernement d'union nationale. Lise, je vous propose un peu de musique et Serge Gainsbourg, Le soldat et le sable, le temps pour nous de joindre notre invité suivant.
Oui, je défendrai le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël, la terre d'Israël, les enfants d'Israël. Je défendrai contre tout ennemi le sable et la terre qui m'étaient promis. Je défendrai le sable d'Israël, les villes d'Israël, le pays d'Israël, quitte à mourir pour le sable d'Israël.
Soldats, c'était Serge Gainsbourg. Nous sommes dimanche 29 octobre et nous sommes en édition spéciale. Édition spéciale jusqu'à 10h15 après le journal de 10h avec vous, Lise. Et donc, je vous laisse avec votre invité suivant, Lise.
Oui, je suis ravie d'être en ligne ce matin avec l'avocat Patrick Klugman. Bonjour Patrick.
Bonjour.
Merci d'être avec nous sur Radio Judaïka. Vous avez défendu à l'époque la famille de Gilad Shalit, ex-otage franco-israélien, et vous dites que dans cette nouvelle crise, la France a un rôle majeur à jouer pour tenter d'obtenir la libération des personnes capturées par le Hamas. Expliquez-nous.
Eh bien, la France est intéressante dans cette perspective à un double titre. D'abord, par le nombre de victimes, de toutes les victimes, c'est-à-dire que la France compte près de 35 ressortissants tués par les attaques du 7 octobre. 35, c'est énorme. Il y a très peu d'attentats qui ont fait plus de 35 victimes françaises ces dernières années.
Ouais.
C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que nous avons des otages franco-israéliens, au moins 9 actuellement détenus par les mains du Hamas. Et de ce fait, la justice française a ouvert une enquête pour actes de terrorisme et elle est obligée de le faire puisque la justice française est compétente à chaque fois qu'une personnalité de nationalité française est victime d'un crime où que ce soit dans le monde. Et puis la France a des relations incroyablement fortes et privilégiées avec le Qatar et nous savons que c'est le Qatar qui héberge le leadership du Hamas, que c'est du Qatar que viennent les financements, que c'est peut-être du Qatar d'où viennent les ordres, et en tout cas que c'est au Qatar que sont les principaux maîtres du Hamas. Donc la France, elle a forcément un rôle politique, un rôle diplomatique et un rôle judiciaire à jouer dans l'issue de cette crise. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé le président Macron quand il est allé en Israël, où il a proposé de mettre à disposition de l'État d'Israël la coalition qui a combattu Daesh et l'État islamique comme auparavant Al-Qaïda. Donc oui, la France a vraiment un rôle à jouer qui n'est pas un rôle de figuration. Et d'ailleurs, quand nous étions en Israël la semaine dernière, j'ai passé 36 heures pour rencontrer les familles, pour aller dans le kibbutz de Kfar Aza comme à l'aumônerie militaire de Choura, toutes les familles, tous nos interlocuteurs regardent la France quasiment avec autant d'intérêt et et d'attente que les États-Unis, voire même plus. Les Israéliens savent qu'ils ont besoin du soutien militaire, financier, américain, mais pour ce qui est de trouver des solutions, pour ce qui est de ramener les otages à la maison, ils ont beaucoup plus confiance dans l'action de la France. Je ne dis pas que c'est fondé, je ne dis pas que c'est rationnel, je ne dis pas que ça sera comme ça que ça va se passer, je vous dis ce qu'on a ressenti et entendu sur place.
Alors, pourtant, Patrick Klugman, vous étiez aux premières loges pour Gilad Shalit qu'on a échangé contre un millier de prisonniers palestiniens. Et depuis, même si on était évidemment tous tellement heureux de retrouver Gilad Shalit vivant, on s'est tout de même pas mal mordu les doigts de cet échange. Et là, aujourd'hui, ça fait deux fois ce week-end que le Hamas propose d'échanger les 230 otages contre la totalité des 5 ou presque 6 000 prisonniers palestiniens. Évidemment, on ne peut pas aller vers ça comme solution.
Écoutez, moi, je, dans cette affaire, je ne suis qu'avocat. Je défends des familles, et les familles, ce qu'elles veulent, c'est retrouver leurs proches. Donc, je ne suis pas à même d'expliquer la raison d'État, ni l'opportunité des frappes, la manière dont elles sont faites. Ça, c'est l'état-major israélien, c'est le gouvernement israélien qui le décide. Je n'ai d'ailleurs pas entendu précisément ce que pensent les familles de l'accord, entre guillemets, proposé par Hamas. Ce que je sais, en revanche, c'est que les familles sont très inquiètes des frappes israéliennes parce qu'elles ont peur que ce qui inquiète le plus les familles, c'est pas tellement savoir si l'accord se fera ou pas.
Oui.
Et quel accord et comment. C'est que on les retrouve vivants une fois l'offensive finie.
Bien sûr.
Et vous ne pouvez pas demander à un père, une mère, un frère de penser à autre chose qu'à la santé des siens. Et imaginez une famille d'otages. On vous dirait, moi je comprends que la priorité soit militaire et que ce soit de défaire le Hamas, de le vaincre militairement. Ce serait une forme de fanatisme qui ne serait pas du tout ni juive, ni israélienne, ni acceptable. Vous ne pouvez pas demander à une famille de vouloir autre chose que d'abord le retour de ses proches. Mais ce n'est pas ces familles-là qui sont le gouvernement de l'État d'Israël qui doit arbitrer, qui doit gérer l'intérêt général, l'intérêt sécuritaire, l'intérêt stratégique de l'ensemble de la population israélienne, en prenant évidemment, je l'espère, j'en suis sûr, en compte, la situation particulière des otages.
Non, vous avez raison, Patrick, mais vous l'avez dit vous-même, il n'y a aucune bonne option aujourd'hui pour faire libérer les otages.
Il n'y a aucune bonne option sur la table. Il n'y a aucune bonne option sur la table, ça c'est certain. Mais s'agissant de ceux que je représente, souvenez-vous du mot de Camus qu'on cite souvent, « Entre la justice et ma mère, je préfère ma mère.
Okay. » Oui.
Donc je comprends que si on tend un micro à des gens qui attendent le retour de leur mère, de leur enfant, ils vont dire « J'en ai rien à foutre de libérer 6000 prisonniers. » Mais heureusement ou malheureusement, ce ne sont pas eux, le gouvernement de l'Israël, le gouvernement devra prendre en compte ses voix et devra arbitrer avec d'autres paramètres. Moi, je suis juste là pour dire que ces voix existent et qu'il faut qu'il y ait le retour de ces otages d'une manière ou d'une autre. Je ne peux rien dire d'autre étant avocat. Si, je peux dire quand même que discuter avec que remettre une rançon, quelle qu'elle soit, avec un groupe terroriste, normalement c'est illégal et que c'est même la continuation du crime d'enlèvement et de séquestration. Donc, le point de vue juridique, il est très clair. Encore une fois, la question, c'est est-ce que vous demandez au juriste de parler ou à l'avocat ? Et l'avocat, il n'est que la voix de ses clients et ses clients, ils veulent revoir leurs proches.
Bien sûr. Ma dernière question, Patrick Klugman, ce sera sur la Croix-Rouge. Il y a plusieurs familles d'otages qui demandent au Hamas de laisser la Croix-Rouge voir leurs proches, évaluer leur état de santé et le cas échéant, leur amener des médicaments. Est-ce que vous avez des infos là-dessus ? Est-ce que ça pourrait avancer de ce côté-là ?
On n'a pas d'infos précises sur cet aspect-là, mais je sais qu'il y a eu beaucoup de demandes adressées au CICR. Beaucoup de demandes de ce côté-là, mais il y a une espèce de trade aussi sur la question de l'aide humanitaire et où, en fait, y compris les organisations humanitaires disent « Ok, on veut bien vous aider sur les otages, mais laissez-nous accéder à Gaza. » Enfin, il y a des discussions qui sont épouvantablement difficiles dans tous les sens.
Oui, bien sûr. Merci beaucoup Patrick Klugman, avocat, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka et bon courage pour votre mission difficile.
Merci, au revoir.
Au revoir.
Merci donc à Maître Patrick Klugman pour cet éclairage du côté obscur quelque part, parce que c'est vrai que par définition, les négociations, si négociations il y a, sont souvent, je dirais, dans l'ombre, Lise. Alors, nous avons au téléphone notre invité suivant. Il s'agit de Raphaël Jérusalmi, ancien officier du renseignement militaire de Tsahal.
Bonjour Raphaël, merci d'être avec nous ce matin.
Bonjour.
Alors, bien sûr qu'effectivement, tout a changé et en même temps, rien n'a changé, puisqu'on avait déjà vu quelques incursions mercredi et jeudi dans la nuit. Là, on a intensifié ça, mais on a l'impression que ça va prendre très longtemps et que ça va être en fait très pas à pas, Raphaël.
Oui, et plus on va avancer dans cette incursion et plus ça va être lent et précautionneux, car on va rentrer maintenant dans la guérilla urbaine. On est pour l'instant aux abords de Gaza City. Il y a maintenant une entrée plus en profondeur des troupes de Tsahal avec des renforts qui arrivent, car vous imaginez bien que ceux qui ont donné l'assaut initial, il faut assurer leur relève, car ils sont fatigués, ils doivent se reposer. Donc d'autres renforts entrent en masse et il va y avoir maintenant l'entrée dans les zones plus habitées, plus urbaines, extrêmement dangereuse avec des tireurs embusqués, des pièges explosifs partout, des mauvaises surprises, dirons-nous, à chaque coin de rue. Et donc, ça va être une opération pas à pas, en espérant qu'il y aura un maximum de destruction par les tanks et l'artillerie avant que les soldats de l'infanterie entrent dans certains endroits. Il va falloir s'armer de patience, d'autant plus que pour l'instant est abandonnée en fait la pensée à une immense offensive, comme on pensait au début, quelque chose de beaucoup plus massif encore. Et les Américains, à raison, je pense, nous ont conseillé d'agir plus au coup par coup. Et donc, nous appliquons cette méthode et elle a l'air de porter ses fruits. Quand même, il faut bien le préciser, un bombardement massif qui vient de l'air, de l'artillerie, mais aussi de la mer. La marine joue un rôle très très important dans cette incursion et dans cette offensive en tirant de la mer avec une précision chirurgicale. Et donc, tout cela va prendre du temps, surtout qu'en même temps, dans le même temps, on recueille du renseignement pour la poursuite des opérations et on tente malgré tout de libérer les otages israéliens, de trouver où ils sont et de tenter des opérations de commando audacieuses même pour en les libérer.
Alors justement, Raphaël, je voulais qu'on parle un petit peu tactique militaire avec vous, parce que vous qui êtes ancien officier des renseignements militaires, c'est aussi votre spécialité. Ça fait déjà quelques années que Tsahal avait réfléchi à plus de synergie, en fait, comme vous le disiez, entre l'armée de l'air, l'armée de terre et l'armée et la marine. Il y avait donc des nouvelles unités qui avaient été créées. Et là, particulièrement dans cette guerre à Gaza, il y a des nouvelles unités qui s'appellent Soufa, tempête en hébreu, et qui font la coordination immédiate sur le terrain entre l'artillerie, les avions et la marine.
Exactement, cette initiative, on la doit au chef de l'état-major précédent, le général Kochavi. Mm-hmm. Ça avait été un de ses chevaux de bataille, effectivement, de raccourcir tous les délais opérationnels. Alors, c'est entre les différents corps de l'armée, comme vous l'avez dit, la marine, l'armée de l'air, etc. C'est aussi au niveau du commandement, c'est-à-dire de raccourcir la distance, la communication entre le terrain et le quartier général et les commandements régionaux, donc ça est beaucoup plus vite de haut en bas et de bas en haut la circulation de la formation et des instructions, et puis aussi entre les différents services de défense, c'est-à-dire entre Tsahal par exemple et le Shin Bet ou même le Mossad, et que là aussi donc inter-service, ça est beaucoup plus vite dans les coordinations d'opérations. Et aujourd'hui vous avez dans la minute même l'information du Shin Bet transmise à Tsahal, qui la transmet aux unités qui doivent agir sur cette information, qui peuvent être aussi bien infanterie, artillerie et marine, par exemple, combinées, et qui vont agir donc sur ce point précis qui leur a été signalé par les services du Shin Bet. Donc voilà à quel point ça marche vite. Aussi, les soldats de l'infanterie aujourd'hui qui marchent dans Gaza sont suivis par des salles d'opération à l'arrière avec des ordinateurs qui reçoivent toutes les informations du terrain de ces soldats et qui les font rentrer dans un programme d'ordinateur avec des algorithmes qui calculent les possibilités opérationnelles, tactiques, de comment traiter tel ou tel problème auquel ils se trouvent tout d'un coup confrontés sur le terrain. Il y a donc une deuxième armée, une sorte de cerveau à l'arrière qui analyse tout cela et qui renvoie aux soldats en temps réel pratiquement des conseils, si tu as tel problème, voilà la solution que nous préconisons, etc. Donc nous sommes ici à un très haut niveau de coordination, avec le but principal, en fin de compte, c'est pas seulement de détruire l'ennemi, le but principal c'est d'éviter un maximum les pertes de notre côté. Nous ne voulons pas, cette fois-ci, avec toute la rancœur que nous avons envers le Hamas et le désir de les détruire, nous ne voulons pas avoir encore mettre trop en danger nos soldats. Nous allons prendre des précautions et mieux vaut aller lentement que de perdre des vies humaines de soldats. Surtout que nous avons aussi la nécessité du côté humanitaire d'éviter des dommages collatéraux. Nous tentons d'avoir des opérations de plus en plus chirurgicales pour éviter de tuer des civils palestiniens.
Oui, bien sûr. On voit bien effectivement que Tsahal continue d'être l'armée la plus morale du monde.
C'est le seul abri qu'ont les Palestiniens. Ils n'ont pas d'abri comme les Israéliens. Il n'y a que les chefs du Hamas qui sont abrités sous terre. Tous les autres sont... Les enfants palestiniens n'ont pas d'abri. Le seul abri, la seule protection qu'ont les Palestiniens, c'est l'éthique de Tsahal, c'est les valeurs morales de Tsahal. Ça, c'est ça qui les protège.
Oui. Ma dernière question, Raphaël, évidemment, ce n'était pas une surprise pour nous, Israéliens. Ça fait des années qu'on le sait que le QG du Hamas est sous l'hôpital Shifa, qui est le plus grand hôpital de Gaza. Donc là, on a donné toutes ces preuves-là au service de renseignement du monde entier. On sait qu'il y a 4000 personnes qui sont réfugiées là-bas, puisque justement, vous parliez du fait que les Palestiniens n'avaient pas d'abri. Face à ce cynisme, finalement, qu'est-ce qu'on peut faire puisqu'on ne veut pas devenir comme eux et se mettre à bombarder des écoles ou des hôpitaux ?
Exactement. Et en plus, nous avons nos otages qui sont probablement dans ces tunnels. Donc ouais. Ça nous pose aussi un problème, car sinon ça serait plus facile, car sans bombarder les tunnels, on pourrait les asphyxier les gens qui sont à l'intérieur. Il y a des bouches d'aération, il suffit de les boucher, et il n'y a plus d'air, ou alors d'injecter des gaz. Mais malheureusement, nous avons des otages, là, ça serait donc les sacrifier. On ne peut pas bombarder là où il y a effectivement des écoles et des hôpitaux, mais on peut bombarder à côté en créant ce qu'on appelle des tremblements de terre, car la façon dont certains de ces tunnels sont construits, si on secoue le sol, il y aura comme un tremblement de terre et les tunnels s'écrouleront, donc on pourrait aussi ensevelir vivants les gens du Hamas. Mais là encore, on a ce problème d'otages. Je rappelle qu'il n'y a pas de crise humanitaire à Gaza et que tout le diesel dont Gaza a besoin, inclus les hôpitaux, se trouve dans les réserves du Hamas souterraines. On parle de 500 millions de litres de diesel que se réserve le Hamas. On parle de vivres, on parle de tout ce dont les gens ont besoin au niveau du sol se trouve sous terre pour ces terroristes. Et donc, évidemment, il va falloir trouver un moyen de les détruire. J'imagine en plus que parmi ces tunnels, il y en a qui vont jusque dans le Sinaï, qui allait sous la frontière avec l'Égypte, et que si les choses tournent trop mal, eh bien les glorieux et braves dirigeants du Hamas s'encourront les premiers à travers ces tunnels vers l'Égypte, abandonnant, comme ils le font maintenant, la population civile de Gaza à son sort. Ils n'ont absolument aucune considération pour la population civile de Gaza. Au contraire, ils s'en servent comme bouclier humain.
C'est sûr. Justement, toute dernière question, Raphaël, par rapport à ce que vous venez de dire. L'Égypte a mis en garde Israël ce matin en disant qu'il ne fallait pas toucher à ce qu'ils appellent le corridor de Philadelphie. C'est une bande de 14 kilomètres de long. C'est ça qui est en fait le long de la frontière entre Gaza et l'Égypte ?
Oui, et c'est un sens de l'humour à l'égyptienne, parce qu'en fin de compte, tout le problème, c'est les Égyptiens, c'est eux les vrais responsables de la crise humanitaire qu'il n'y a pas encore, hein, je le précise, il n'y a pas encore de manque de vivres ou d'eau à Gaza. Mais les vrais responsables, si crise humanitaire il y a, ce sont les Égyptiens et la communauté internationale. Les Égyptiens d'abord parce qu'ils n'ont pas ouvert leurs frontières pour installer un camp de réfugiés dans le Sinaï, comme les Turcs en ont fait en Turquie pour les réfugiés de la guerre civile en Syrie. Et la communauté internationale ne fait pas pression sur les Égyptiens en ce sens. Et je n'ai pas encore vu un jet privé de M. MBS d'Arabie Saoudite venir prendre un seul enfant palestinien de Gaza. Donc, soyons sérieux, s'il y a une crise humanitaire dans Gaza, ça sera la faute de la communauté internationale des Égyptiens d'abord, car nous avons donné le signal. Il y a des endroits hors les zones de combat dans lesquels on peut récupérer toute cette population et lui apporter l'assistance nécessaire. Au reste du monde de prendre ses responsabilités et, je le dis et répète, de forcer l'Égypte à ouvrir sa frontière sud pour que, temporairement du moins, la population civile de Gaza soit hors la zone de combat et que, évidemment, pour nous, il sera plus facile de faire notre travail et de mener cette guerre, car nous sommes en guerre et je n'ai jamais vu une guerre où il n'y avait pas de dommages collatéraux. Ça n'existe pas, malheureusement.
Bien sûr. Merci beaucoup, Raphaël Jérusalmi, ancien officier des renseignements militaires, d'avoir été avec nous ce matin. À très vite. Au revoir.
Judaïka.
9h44 minutes. Merci à Raphaël Jérusalemi. Je vous le rappelle, une édition spéciale de Radio Judaïka ce matin jusque vers 10h15 environ après le journal. Il y en aura une autre d'édition spéciale entre midi et 13h avec Lise Benkemoun, bien sûr, en fonction de la nouvelle phase dans laquelle entre la guerre entre Israël et le Hamas. Et on va se pencher sur le volet géopolitique de cette guerre entre Israël et Hamas. Maintenant, Lise, avec votre invité Gérard Vespierre.
Oui, Gérard Vespierre, bonjour.
Bonjour à vous.
Vous êtes géopolitologue et fondateur du Monde Décrypté. Merci d'être avec nous ce matin. Alors Gérard, je voulais qu'on discute pour commencer de tout le côté médiatique de cette guerre, puisqu'il y a une intense guerre psychologique qui se passe entre Gaza et Israël et qui a touché la France particulièrement ce week-end, entre autres, parce qu'il y a une véritable polémique sur le traitement de la guerre qui est fait par l'AFP. L'AFP, vous le savez, c'est l'agence France-Presse, c'est l'agence sur laquelle se fondent la plupart des médias français. Comment vous voyez cette polémique autour de l'AFP, Gérard ?
Écoutez, c'est quand même une polémique effectivement regrettable, car si l'AFP a été invité à donc visualiser au cours de la conférence organisée par Tsahal les exactions atroces commises par le Hamas sur le territoire israélien, il aurait été normal effectivement que soit réalisé immédiatement un compte-rendu de cette participation de l'AFP dans l'ensemble de ces canaux de diffusion. Donc je crois qu'il n'a été réalisé une telle publication que plusieurs jours après, et dans le cadre d'un article plus général. Donc voilà, il y a effectivement là un manque à la déontologie la plus élémentaire, et je pense que ça avait besoin d'être souligné et regretté.
Oui, plus encore que ça, et on va finir là-dessus, le qualificatif terroriste n'est jamais employé par l'AFP pour parler du Hamas. C'est toujours mouvement ou mouvement islamiste, mais jamais terroriste n'est employé par l'AFP. Et ça, c'est vraiment quand même la base. On se croirait à la France insoumise hein, en ce moment chez l'AFP.
Alors, sans aller peut-être jusque-là, effectivement, la vocation du Hamas n'a pas été, depuis des années, n'était pas spécialement orientée sur le terrorisme. Là, ce qui a vraiment eu cette explosion du 7 octobre a renversé tout, effectivement, les cadres existants. Il y avait des échanges avec le Hamas, il y a, du point de vue international. Donc, c'est vraiment la volonté, je pense, iranienne derrière. Et il faut aller chercher jusque le mal dans les racines, n'est-ce pas ? Et les racines sont à Téhéran. Et tant qu'on n'aura pas compris ça, tant qu'on n'aura pas admis ça, tant qu'on n'aura pas fait le nécessaire pour que le peuple iranien renverse ce régime, ce que le peuple iranien souhaite d'ailleurs, eh bien on sera toujours dans une situation épouvantable au Moyen-Orient. Donc, et autour, bien sûr, d'Israël dans Israël même. Donc, le Hamas a été un instrument au service de la vision iranienne d'éradiquer Israël, n'est-ce pas ? Ce cancer, cette tumeur cancéreuse, c'est le guide suprême actuellement au pouvoir qui l'a expliqué. Donc on se souvient des 8 ans du président Ahmadinejad, n'est-ce pas ? Antisioniste, antisémite. Bon, donc voilà, tant qu'on n'a pas compris ça, et c'est absolument invraisemblable effectivement que les démocraties ne se soient pas réunies et n'aient pas défini un chemin commun pour effectivement mettre fin à cette situation inadmissible en Iran, on est confronté à cette situation, hélas.
Vous disiez justement que c'était l'Iran qui était le commanditaire. On a vu une campagne assez choquante, Gérard Vespierre, en Iran pour aller soutenir le Hamas à Gaza. Et il y aurait 3 millions d'Iraniens qui seraient prêts à ça. C'est quand même désespérant.
Bah écoutez, 3 millions sur une population de 85, bon, voilà, 3 millions c'est énorme pour Israël, 3 millions sur 85 c'est différent pour l'Iran. N'oublions pas quand même que donc ce régime a des racines, et puis aussi n'oublions pas ou mettons en avant plus exactement les arrière-pensées du régime iranien, car cette action extérieure vis-à-vis d'Israël, eh bien, est utilisée à l'intérieur, d'abord pour faire oublier les exactions du régime vis-à-vis de son peuple, son propre peuple, pardon. Deuxièmement, aussi pour réunir le maximum d'Iraniens autour de cette vision anti-israélienne. Et donc, voilà, il y a une exploitation intérieure et même la vision globale du régime est de pouvoir s'attaquer à un certain nombre de d'organisations et de régions en Iran après les mouvements qui ont été ceux de la rue pendant de nombreux mois de l'année 2022 et 2023. Donc on est là devant une situation d'exploitation intérieure iranienne pour faire oublier les difficultés du régime face à sa population.
Alors évidemment, Gérard, ce qui déplaisait encore plus que tout, parce que bon, on sait bien que dans le fond de l'idéologie chiite, il s'agit d'éradiquer Israël purement et simplement, mais là, il y avait une urgence pour l'Iran, c'était le rapprochement possible avec son ennemi héréditaire, l'Arabie saoudite sunnite, qui pouvait signer un accord de normalisation avec Israël prochainement. Ces accords d'Abraham, déjà, ça menaçait l'Iran et là, maintenant, c'était le cran de trop.
Effectivement, je pense que depuis octobre 2020, n'est-ce pas, Téhéran a eu la nécessité de mettre en place une réaction à cette stratégie américano-arabo-israélienne. Et donc, il a fallu du temps pour réfléchir, il a fallu du temps pour préparer un schéma. Le schéma, eh bien, c'est ce que nous avons vu le 7 octobre. Concevoir une opération de ce type, avec ce qu'elle a de pratique, de militaire, de technologique, plus le volet politique que vous avez tout à fait bien souligné, donc de créer une rupture par rapport au mouvement donc de convergence entre les peuples arabes et donc Israël, il fallait cette rupture et donc il fallait trouver une architecture et ça ne se fait pas en 24 heures. Il a fallu effectivement ces 3 ans entre octobre 2020 et 2023, voyez-vous, une partie pour réfléchir quelle opération mener, comment l'organiser et ensuite préparer. Il a fallu entraîner à l'intérieur de Gaza, à l'extérieur de Gaza. Donc il y a eu vraiment un très grand travail de préparation de la part des gardiens de la Révolution. Et donc le conseiller spécial de Khamenei, donc du guide suprême, Velayati, qui est un ancien ministre des Affaires étrangères, a dit, si ma mémoire est bonne, le 9 octobre, voyez-vous, 2 jours après, en faisant référence aux États-Unis, aux gardiens de la Révolution et à l'élimination de Soleimani. Il a dit, si les Américains ont cru qu'en éliminant Soleimani, ils éliminaient la créativité et l'action extérieure des gardiens de la Révolution, ils ont eu tort. Ce qui vient de se passer en est la preuve. Donc, c'est un double aveu de la participation des gardiens de la Révolution à ce projet donc, du 7 octobre et de l'invasion en Israël de la part du Hamas et de la responsabilité profonde de l'État iranien.
Merci beaucoup Gérard Vespierre, géopolitologue et fondateur du Monde Décrypté. À très vite pour continuer de décrypter ce conflit avec vous.
Merci beaucoup. Bonne journée.
Nous sommes toujours dans cette édition spéciale guerre entre Israël et le Hamas et notre dernier invité de cette première partie de l'édition spéciale. Je vous rappelle que nous vous retrouverons tout à l'heure aussi entre midi et 13h. Et donc pour terminer cette première édition spéciale, Lise, on va parler de terrorisme et de contre-terrorisme avec Claude Moniquet.
Bonjour Claude Moniquet, merci d'être avec nous ce matin sur Radio Judaïka.
Bonjour Lise, c'est un plaisir. On peut le dire dans les circonstances actuelles.
Oui, c'est vrai. Alors, c'est vrai que là, j'aurais besoin de votre expertise de toute votre vie sur le contre-terrorisme, Claude Moniquet. On a l'impression qu'en fait, il n'y a pas de bonne stratégie dans cette guerre, qu'il n'y a pas de possibilité réelle de faire face au Hamas sans avoir trop de dommages collatéraux, que ça soit sur les otages, que ça soit par rapport au soutien international, par rapport aux populations civiles de Gaza et donc à la moralité d'Israël. Il n'y a que des mauvaises options, finalement.
Alors, il n'y a que des mauvaises options, effectivement, mais cela étant, une fois de plus, et sans faire de propagande, je ne suis pas payé pour faire la propagande de Tsahal ou d'Israël, on peut remarquer que depuis toujours, l'armée israélienne, on l'avait vu au Liban, même dans les années 80, a des pratiques de prévention qui visent à éviter au maximum les dommages collatéraux. Quand je ne connais pas d'armée au monde qui téléphone à tous les habitants d'un immeuble en disant « évacuez parce que dans un quart d'heure, dans 20 minutes, dans une demi-heure, on va détruire votre immeuble ». Je n'en connais pas, ça n'existe pas. Et pourtant, j'ai été sur plusieurs opérations et j'ai donné des cours dans des académies militaires. Je n'ai jamais vu ça. Donc, Israël fait le maximum. Cela étant, clairement, la guerre, ce sont des dommages collatéraux aussi. On a oublié en Europe. En Europe, on n'a pas eu de guerre depuis 1945, sauf les Balkans et l'Ukraine, mais c'est aux confins de l'Europe, on a oublié ce que c'était. On a eu des milliers et des milliers de morts, des dizaines de milliers de morts, dans certaines nuits de bombardement sur l'Allemagne en 40-45, et ça n'émeuvait personne. Alors, je ne dis pas que les morts civiles de Gaza ne doivent émouvoir personne. La mort d'un civil, d'un enfant, d'une femme, etc., c'est affreux. Mais ce sont des choses qui se passent pendant la guerre, malheureusement. Surtout quand on a en face de soi un ennemi qui se cache au milieu de la population civile, dans les écoles, les hôpitaux et les quartiers.
Alors justement, ça c'est ce qui a été partagé. Alors c'est vrai que je le disais avec Raphaël Jérusalem, ce n'est pas une surprise pour nous Israéliens et sans doute pas pour vous non plus, Claude Moniquet. Ça fait des années qu'on sait très bien que le Hamas met les QG en dessous des hôpitaux et particulièrement de l'hôpital Shifa à Gaza. Et que sinon, c'est dans les écoles et dans les trucs de l'UNRWA sur lesquels l'Europe les finance. Et c'est là que j'ai, moi, personnellement, un problème, je dois dire, en tant que journaliste. C'est la naïveté que je constate systématiquement dans les positions européennes par rapport au financement de ce qui se passe à Gaza.
Oui, mais c'est un problème qu'on soulève depuis 20 ans, hein, au moins. J'ai participé à de nombreuses conférences dans lesquelles on parlait, par exemple, du financement des manuels scolaires qui apprennent la haine des Juifs, l'antisémitisme pur, le djihad, etc., avec l'argent de l'Union européenne. On a fait, je ne sais pas combien de conférences on a faites, et on a éveillé très peu d'intérêt. Alors, le problème, effectivement, c'est que d'une part, la communauté internationale ne peut pas ne pas financer financer les populations civiles et l'aide aux réfugiés palestiniens, aux pauvres Gazaouis, etc. C'est une évidence. Mais en même temps, il n'y a pas de contrôle. Et cela étant, ça n'est pas propre à Israël, c'est propre de manière générale à toute l'aide internationale partout dans le monde. L'argent qu'on envoie en Afrique par centaines de milliards, entre autres dans le Sahel depuis 30 ans, est-ce qu'il finit vraiment dans le bien-être de la population ou dans les poches des dirigeants? Tout le monde connaît la réponse.
Alors, plus grave, il y a aussi, évidemment, on en parle souvent avec vous, Claude Moniquet, mais ce week-end, comme d'habitude, ça a été le cas, notamment à Paris, cette fois-ci pas à Bruxelles, mais c'était à Bruxelles la semaine dernière, donc à vrai dire, c'est pareil. On a des manifestations pro-palestiniennes qui tournent à l'antisémitisme très rapidement, qui ne sont soit interdites, soit pas interdites, mais qui de toute façon finissent par avoir lieu, d'une manière ou d'une autre, et dans lequel la foule en plein territoire européen, comme Paris ou Bruxelles, où ça devrait être interdit, appelle à la haine antisémite.
Oui, tout à fait. À Paris, à Bruxelles, et vous auriez pu parler de Londres, où hier, il y a eu des
Oui.
dizaines de milliers de personnes, avec un slogan. Un des slogans, c'était « Toute la Palestine, de la rivière à la mer ». Tout le
La
monde
même qu'à Bruxelles la semaine dernière.
sait ce que ça veut dire. De la rivière à la mer, ça veut dire qu'on efface Israël, qu'on éradique l'État d'Israël qui cesse d'exister. De nouveau, ça n'est pas, malheureusement, ça n'est pas étonnant. Il y a quelque chose d'assez moderne dans cette conception française qui est d'interdire les manifestations, mais de les laisser se dérouler. On ne comprend pas très bien. C'est une manière peut-être de faire plaisir à tout le monde et de ne faire de peine à personne. C'est certainement aussi une manière d'essayer de faire baisser la pression. Je pense que enfin, les responsables se disent, si on interdit les manifestations, c'est symbolique, c'est une prise de position claire, mais en même temps, si réellement sur le terrain elles sont interdites, on risque d'avoir autre chose que des gens qui crient dans la rue, on risque d'avoir des émeutes, des attentats, des attaques contre des synagogues, etc. Donc, c'est peut-être une décision de bon sens, il reste que c'est très désagréable et que surtout, ce qui est grave, c'est de voir se mêler à ces manifestations dans lesquelles il y a beaucoup de jeunes qui connaissent rien, qui ont mal étudié, qui n'ont pas lu un livre, qui connaissent pas l'histoire du Moyen-Orient. On a aussi des politiques. On a des responsables politiques de partis, de syndicats, etc. Et ça, c'est inacceptable.
Oui, il y a eu un certain nombre de. Il y avait trois militants de la France insoumise à Paris hier, que la police a averti qu'ils n'avaient pas intérêt à être là et qu'ils allaient être verbalisés à 135 euros. Comment voulez-vous que ça empêche qui que ce soit de venir à une manifestation de ce genre, Claude Moniquet?
Oui, bien sûr. Et alors, cela étant, vous avez évidemment le principe quand même de la liberté d'expression en Europe, hein.
Oui.
Moi, je n'ai pas de problème avec le fait que des gens manifestent pour la Palestine hier, aujourd'hui ou demain. C'est leur droit le plus strict. Je n'ai pas de problème avec ça. Le problème commence effectivement quand on a des incitations, pardon, à la haine, quand on a des slogans antisémites, quand on a des manifestations qui ne sont plus des manifestations de soutien à la Palestine, mais des manifestations de soutien au Hamas, qui est une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne. Là, on a un problème et là, les sanctions, effectivement, ne sont pas assez sévères et il serait temps peut-être d'appliquer simplement la loi.
Pour finir, Claude Moniquet, il y a quelque chose qui est un peu choquant aussi dans ces manifestations, c'est que elles exigent un cessez-le-feu immédiat, comme si on était dans une guerre entre deux armées d'égale taille, on va dire, alors que là, on a quand même été clairement victime d'une attaque terroriste qui est comparable au 11 septembre, sur lequel personne ne critiquait les Américains pour aller faire une réponse face à Al-Qaïda.
Mais le 11 septembre, bien sûr, le 13 novembre à Paris, pardon, qui s'est soldé par des bombardements sur Raqqa, qui étaient tout à fait justifiés sur l'État islamique et sur Mossoul, mais qui ont aussi tué des victimes civiles. Nous, Européens et les Américains, nous avons tué malheureusement des milliers, voire des dizaines de milliers de civils innocents en Syrie et en Irak. Alors, je ne dis pas que parce qu'on a fait, les Israéliens ont le droit de le faire. Je le répète, toute victime civile est un drame absolue, surtout les enfants. Cela étant, il faut être raisonnable, il faut être juste dans la critique. Et malheureusement, on constate depuis très longtemps que sur ce point comme sur d'autres, quand on en arrive à parler d'Israël, tout d'un coup, la raison s'enfuit et on est dans la passion pure avec des gens qui disent n'importe quoi parce qu'ils n'ont, ils sont désinformés, parce que simplement, ils ne connaissent pas l'histoire.
Eh bien, c'est pas fini, hein, en tout cas. Merci beaucoup, Claude Moniquet, spécialiste de contre-terrorisme, d'avoir été avec nous ce matin sur Radio Judaïka. À bientôt.
À bientôt.
Heures et 3 minutes. Merci à Claude Moniquet. Je voudrais quand même vous rappeler, vous avez eu tout à l'heure Raphaël Jérusalmy, Lise. Eh bien, pour rejoindre un peu ce que disent à la fois Raphaël Jérusalmy, aussi Claude Moniquet et finalement la plupart de nos intervenants sur Radio Judaïka, mais même sur toutes les chaînes d'infos qu'on a pu et que vous et moi nous regardons sans relâche depuis maintenant 3 semaines. La désinformation, c'est aussi un manque de connaissances, un manque d'études, et donc N'oubliez pas, messieurs, dames qui nous écoutez, si vous voulez en savoir un peu plus sur la désinformation, sur l'antisémitisme, eh bien, Raphaël Jérusalmi a participé à l'élaboration d'un manuel bleu. Un manuel bleu, vous pouvez aller le télécharger totalement gratuitement, où on vous explique un petit peu toutes les arcanes de la désinformation, comment c'est orchestré et comment y faire face aussi. Et pour aller télécharger ce manuel bleu gratuitement, il suffit de taper manuel bleu en un mot, manuel bleu. Et là, vous pourrez télécharger ce petit guide qui vous permettra d'en savoir plus sur la désinformation, bien sûr, en ce qui concerne Israël en particulier, mais sur la désinformation en général. 10h04, Lise, avant qu'on ne se sépare de cette édition spéciale, je propose qu'on refasse un petit résumé de l'info ce matin.
Bien sûr, l'information principale, c'est que depuis vendredi soir, l'armée israélienne est rentrée dans Gaza avec des blindés, des unités d'ingénierie, des drones, des hélicoptères de combat et des fantassins dans le nord de la bande de Gaza. Les avions de combat de l'armée israélienne qui ont attaqué plus de 450 cibles militaires du Hamas au cours des dernières 24 heures, avec un officier de Tsahal et un autre soldat blessé qui ont tous deux été transportés à l'hôpital. Tsahal qui frappe aussi dans le nord des attaques du Hezbollah. Vendredi soir, le porte-parole de Tsahal qui a montré les preuves selon lesquelles le QG du Hamas se trouve à Gaza sous l'hôpital Shifa. Et hier soir, une conférence de presse commune de 32 minutes et quelques entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le ministre de la Défense d'Israël Yoav Gallant et le ministre sans portefeuille qui est aussi le chef de l'opposition Benny Gantz, qui étaient tous trois à la Kiria au QG de la Défense de Tel Aviv. Et qui ont rappelé le but de cette guerre, c'est-à-dire à la fois de détruire le Hamas et de faire libérer les otages, chacun avec ses mots, c'est ce qu'ils ont déclaré tous les trois. Et ensuite, après cette conférence de presse et depuis ce matin, cette offensive terrestre qui continue petit à petit pour gagner des kilomètres et bombarder le maximum d'infrastructures du Hamas et de tuer de terroristes qui en font partie, hein, en sachant que tout le monde a prévenu. Cette guerre va être longue et difficile pour Israël et également pour le peuple juif tout entier.
Voilà ce qu'on pouvait dire ce matin de ce conflit qui entre dans sa nouvelle phase terrestre avec l'incursion massive de Tsahal dans Gaza ce matin par voie terrestre, par voie maritime et par voie aérienne bien évidemment. Lise, on se retrouve tout à l'heure pour une autre édition spéciale à partir de midi.